إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous entamons le deuxième cours concernant l'écrit du Cheikh Dr. Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari hafizahullah. Ma hiya as-salafiyya, quelle est la signification de la salafiyya? Dans le cours précédent, nous avons terminé l'introduction. Donc là, on rentre dans les points du livre. Le premier point, an-nuqtatu al-ula, le premier point. Bayanu ma'na as-salafiyya fil lugha. Donc, éclaircissement sur la signification, la définition du mot, du terme as-salafiyya dans la langue arabe. Ça, c'est un point important de savoir la signification des termes. Combien de gens parlent sans savoir exactement la signification des mots, même en langue française. Ça arrive. Donc, là, c'est une très grande importance de savoir la véritable définition et signification des mots. Et lorsqu'on étudie la religion, dans les matières de religion, souvent les mots qu'on emploie ont un sens qui peut être différent du sens littéral, du sens dans la langue à la base. Donc c'est un mot arabe qui a un sens à la base, mais que les savants ou les spécialistes d'un domaine bien précis emploient ce mot pour une chose bien précise, une définition bien spécifique. Donc c'est pour cela que souvent, lorsque le ulama entame une matière, l'explique, la commente, il donne en premier lieu le sens littéral, linguistique d'un mot. Puis après, il donne le sens technique. Qu'est-ce qu'il est voulu par ce mot dans telle matière? Qu'est-ce que tel savant dans tel livre, il veut par tel terme? C'est important, et entre dedans le domaine de la traduction. Qu'un traducteur ne vienne pas à traduire des mots par le sens littéral, alors qu'en réalité l'auteur veut autre chose, c'est le sens technique qui est voulu. D'où l'importance de connaître. C'est pour cela qu'il y a des mots, par exemple, que les ulama emploient, que même des fois les générations, il a un sens chez des gens, mais il se peut qu'il y a 200 ou 300 ans, ce mot-là, les gens voulaient autre chose par ce mot-là. Et ça arrive souvent. Et le Cheikh Mohamed Bazmoul, hafizahullah, il a écrit un ouvrage là-dessus, qui s'appelle Al-Haqiqatu al-Shar'iyya, la réalité religieuse. Donc il prend plein d'exemples. Il prend un mot, il donne le sens qu'il est voulu à la base, parfois même le sens qu'il est voulu dans le Coran et la Sunna, au moment où il est employé, puis, des siècles plus tard, ce mot-là, il est de coutume de le comprendre d'une autre manière. Donc de bien faire la différence. Par exemple, depuis très longtemps, le terme sunna, chez beaucoup de gens, aujourd'hui par exemple les anciens, pour eux le mot sunna, il signifie quoi? Recommander. C'est pas obligatoire. C'est le contraire d'obligatoire. C'est-à-dire que c'est un acte qui n'est pas obligatoire. Ils te disent, ça c'est seulement sunna. La jeunesse d'aujourd'hui, souvent, ils ont appris le mot sunna, d'accord, qu'il est voulu dans les fondements de la religion, dans l'usul, la sunna qui est une des sources de la religion. et qui est un devoir, une obligation de suivre et de prendre. Donc parfois les gens peuvent discuter entre eux, mais en vérité chacun, il a un sens du mot. Et parfois il y a de la confusion et les gens n'arrivent pas à s'entendre ou à se comprendre. Donc, d'où l'importance. As-sunna à la base, dans la langue arabe, c'est un mot connu qui veut dire la voie, le chemin, qu'il soit bon ou mauvais. Le chemin des gens bien et le chemin des gens mauvais. On appelle ça sunna. Puis, on a la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la voie, le chemin du prophète. Et en islam, lorsqu'on dit le mot sunna, on sous-entend par là la voie et le chemin et la méthodologie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est sous-entendu qu'on veut par là sunnatun nabi, alayhi salatu wa sallam. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Latattabi'unna sanana man qablakum » Vous allez suivre les sunnas de ceux d'avant vous. Les sunnas de ceux d'avant vous, c'est-à-dire les voies et les chemins entrepris par les peuples d'avant vous, qui se sont égarés et déviés de la droiture. Donc, et dans le fiqh, le mot sunna, c'est l'équivalent, le synonyme de mustahab, quelque chose qui est recommandé. Dans usul al-fiqh, la sunna, c'est la tradition prophétique, avec tout ce qu'elle comporte. C'est tout ce qui nous parvient du prophète, alayhi salatu wa salam. C'est pour parler des sources d'où est-ce qu'on va puiser dans la religion. Donc, il ramène al-usul, al-Qur'an, al-sunna, al-ijma', al-qiyas. C'est les quatre les plus connus, les plus célèbres. Et puis, il y a d'autres points qui sont cités dans le domaine. Et ici, donc, sunna chez al-usuliyin, chez les gens, les spécialistes des fondements de la religion, des fondements du fiqh, n'a pas le même sens que... Voilà. Le terme fiqh, dans la langue arabe, veut dire comprendre. Al-fiqh, faqiha, yafqahu, fiqhan, c'est le verbe, d'accord ? C'est comprendre. Comprendre. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man yulidillahu bihi khayran yufaqihu fid-din » Celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Il ne faut pas comprendre par le hadith le sens qu'on a donné au fiqh plus tard. Et plus tard, le chapitre du fiqh, c'est quoi ? C'est le domaine des adorations et le domaine du relationnel entre les gens, les transactions, le mariage, et ainsi de suite, tout ce qu'il y a en relation entre les gens. Et avant cela, le chapitre des ibadat. C'est pour ça que dans le domaine du fiqh, ça commence par tahara, parce que c'est les ibadat, les actes d'adoration. Salat, zakat, somme, l'hajj. Puis juste après, on a le grand chapitre des mu'amalat, c'est le relationnel. Donc ce sens-là du terme fiqh, qui concerne que ces points-là de la religion, les premiers ne le connaissaient pas. Les premiers ne le connaissaient pas, ce sens-là. Donc c'est important. Donc quelqu'un qui va entendre ce hadith, ça ne veut pas dire c'est celui qui maîtrise seulement tel chapitre. Non, c'est celui qui a la véritable compréhension de la religion, qui comprend convenablement les textes. Donc il y a plein d'exemples comme cela. Tayyib. Donc là le shir va nous expliquer cela. As-sinu wal-lamu wal-fa aslun. Yadullu ala taqaddumin wa sabqin. Donc là, ce sont les lettres de base. Il y en a combien ? Il y en a trois. D'accord ? Le sin, le lam et le fa. Salafa. Donc, as-salaf, on a les trois lettres. Donc, c'est la base du mot. D'accord ? Donc, il prouve quoi ? Que c'est pour démontrer celui qui t'a précédé, qui est venu avant toi, qui t'a devancé. Lida, falafdatu salafi l'ura ta'ni al-mutaqaddim wa sabiq. C'est pour cela que le terme salaf dans la langue, il veut dire celui qui est venu avant, celui qui a précédé. Wahiya jam'u salifin. Et le terme salaf est le pluriel du mot salif. Du mot salif. Wa yujma'u ala. Mais ce n'est pas le seul pluriel. Le mot salif, il a plusieurs pluriels. Donc on a le mot salaf. On a aslaf. Wa suluf. Wa sulaf. Ça, c'est les différents pluriels du mot salif. Wa tutlaqu ala kulli mutaqaddimin. وسابق لك من قرابة ونحوها Et il est employé ce terme pour tous ceux qui t'ont précédé parmi tes proches et semblables. ومنه قول الله جل في علاه فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. Ça c'est un verset coranique. Entre dans ce sens-là, que ce sont ceux de ta famille qui t'ont précédé, qui sont venus avant toi. Le verset coranique, la parole d'Allah, exalté soit-il, qui dit, dans le sens du verset, « Et nous avons fait d'eux des prédécesseurs et un exemple pour ceux qui sont venus après et un exemple pour les derniers. » « قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره » L'imam al-Baghawi, un grand imam du 4e ou 5e siècle de l'Égypte, rahimahullah, qui est un grand tafsir, qui est une référence chez les tafsirs de l'Ahl al-Sunnah. Donc l'imam al-Baghawi, rahimahullah, dit dans son tafsir, « عند هذه الآية السلف من تقدم من الآباء فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. » Donc l'imam al-Baghawi alayhi rahmatullah dit dans le tafsir de ce verset, As-salaf, c'est ceux qui t'ont précédé parmi tes ancêtres. Nous avons fait d'eux des prédécesseurs pour que les derniers prennent le son d'eux. Wa minhu qawlullah ta'ala wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf. Illa ma qad Salaf. Et salafa, ici c'est le verbe, c'est précédé. Donc, et que vous réunissiez entre deux sœurs, sauf ce qui a été fait auparavant. Ça, c'est parce qu'à l'époque de Jahiliya, il y en avait qui se mariaient, ils faisaient la polygamie, mais avec des sœurs. Hein? Ils prenaient la femme et sa sœur, ils se mariaient avec elle. Ou la femme et sa tante, ils se mariaient avec elle. L'islam a interdit cela. أي ما تقدم من فعلكم فذلك متجافا عنه فالاستثناء عن الإثم لا عن جواز الفعل. Donc, c'est-à-dire ce qui a précédé comme action, comme œuvre, ce que vous avez fait auparavant, avant qu'il y ait ces lois, avant qu'il y ait l'islam. Mais ici, le pardon, sauf ce qui a été fait auparavant, ne concerne pas l'action en elle-même. Ça ne vient pas permettre l'action en elle-même, c'est seulement le péché. C'est-à-dire, vous êtes pardonné pour ce qui était auparavant. Mais à l'avenir, vous ne le faites plus. وَلِهَذَا يُقَالْ لِفُلَانٍ سَلَفٌ كَرِيمٌ. Et c'est pour cela qu'il est dit, un tel est là de nobles prédécesseurs. Des personnes nobles qui l'ont précédé. C'est-à-dire des ancêtres, des parents qui l'ont précédé. Qalahu al-Raghib al-Asfahani rahimahullah fil mufradat. Donc, al-Raghib al-Asfahani rahimahullah al-Mufradat, Mufradat al-Qur'an. C'est un recueil où il explique les termes qu'on retrouve dans le Qur'an. Al-Mufradat, c'est le vocabulaire. Le vocabulaire du Coran, donc les ulama depuis très longtemps ont écrit des ouvrages là-dessus. Wa khassahu al-Hafiz ibn al-Athir wa al-Allama ibn Manzur bil mutaqaddim was-sabiq fi as-sinn wal-fadl. Al-Hafiz ibn al-Athir rahimahullah, un grand savant dans le domaine du hadith et des termes difficiles à comprendre dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, c'est ce qu'on appelle gharibu al-hadith. Et l'allama ibn Manzur al-Ifriqi, c'est le grand savant dans la langue arabe et qui a la grande encyclopédie arabe, le grand dictionnaire qui s'appelle Lisan al-Arab, la langue des Arabes. Donc, eux l'ont précisé en disant que c'est celui qui t'a précédé, celui qui est venu avant toi, mais dans l'âge et le mérite. Dans l'âge et dans le mérite. قال ابن منظور رحمه الله والسلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل. ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. ابن منظور رحمه الله il dit السلف aussi veut dire celui qui t'a précédé, qui t'a devancé parmi tes ancêtres et tes parents, et tes proches parents qui sont au-dessus de toi en âge et en mérite. C'est pour cela que les premiers musulmans parmi les tabi'in, on les a appelés as-salafu as-salih. Ici, as-sadr, ici, ce n'est pas la poitrine qui évolue. Hein. On sait très bien qu'on ne parle pas du corps humain. D'accord ? As-sadr veut dire la poitrine. Mais on l'emploie aussi pour dire les premiers, hein, à la base. D'accord ? Ceux qui étaient au début. On appelle ça as-sadr aussi. Donc même les mots, selon le contexte, tu sais ce qui est voulu par le mot. Parce que parfois, un mot, le même mot, on l'emploie pour différentes choses. Mais selon le contexte dans lequel on est, on sait très bien ce qui est voulu par ce mot-là.
ومما يدل على هذا المعنى ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها والحديث فيه قصة وهو
et ce qui viendrait prouver cela, il y a ce sens, il y a le hadith qu'on retrouve dans les deux sahih, dans le Bukhari et Muslim rahimahum Allah, d'après Aïcha رضي الله عنها, et le hadith, il a un récit. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سار ابنته فاطمة رضي الله عنها فبكت. سار c'est de parler à quelqu'un en secret, de parler à quelqu'un doucement sans que la personne à côté puisse entendre. Sir c'est le secret, سار c'est de parler en secret. أن النبي صلى الله عليه وسلم سار ابنته فاطمة رضي الله عنها فبكت فلما رأى جزعها سارها مرة أخرى فضحكت رضي الله عنها فسألتها عائشة فلم تخبرها.
C'est bien écrit chez vous? Hein? Ou c'est effacé? Le ha? Hein?
فلم تخبرها un ha et derrière il y a un alif hein. فلم تخبرها donc et c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم a parlé, a chuchoté à sa fille Fatima رضي الله عنها, alors que Aïcha رضي الله عنها elle est pas très loin mais elle n'entend pas ce qu'ils se disent, elle n'entend pas Aïcha رضي الله عنها. Et Fatima en entendant le prophète lui parler, elle s'est mise à pleurer. Puis lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a vu sa tristesse, il lui a reparlé doucement, en secret. Et elle s'est mise à rire ou à sourire. Et Aïcha radiallahu anha lui posa la question. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Elle n'a pas voulu lui raconter. وَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَتْهَا مَرَّةً أُخْرَى. Mais lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم est décédé, elle est revenue à Aïcha radiallahu anha questionner Fatima sur ce jour-là. Qu'est-ce qu'il lui a vraiment dit?
فَأَجَابَتْهَا فَاطِمَة radiallahu anha بِقَوْلِهَا أَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى فَأَخْبَرَنِي أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً وَأَنَّهُ عَارَضَهُ الآن مرتين وقال لها وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك.
Donc elle lui a dit, lorsque le prophète sallam il est décédé عليه الصلاة والسلام, Aïcha est retournée voir Fatima radiallahu anha et elle lui a reposé la question. Et là, Fatima radiallahu anha va lui répondre, elle va lui dire, lorsqu'il m'a parlé, en secret. La première fois, il m'a informé que Jibril, l'ange Gabriel, alayhi salam, avait pour habitude de venir tous les mois de Ramadan pour lui faire réviser le Coran, réciter le Coran, une seule fois dans le mois. Mais cette année, il me l'a fait deux fois. Il me l'a fait deux fois. Puis il lui a dit, et je pense que ceci est un signe comme quoi ma fin approche, que je vais quitter ce monde. Alayhi salatu wassalam. Alors crains Allah, il dit à Fatima, alors crains Allah et fais preuve de patience. Car quel bon prédécesseur je suis pour toi. Donc il lui dit cette phrase, فَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ. Quel bon prédécesseur que je suis pour toi. قَالَتْ فَبَكَيْتُ بُكَاءِ الَّذِي رَأَيْتِ. Et donc, en entendant cela, j'ai pleuré les pleurs que tu as vus. Parce que Aïcha de loin, elle la voyait pleurer. فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي صَارَّنِي الثَّانِيَ. Et lorsqu'il a vu ma tristesse, il m'a reparlé doucement, secret, une deuxième fois. فَقَالَ يَا فَاطِمَ أَلَا تَرْضَيْنَا أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالَتْ فَضَحِكْتُ ضَحِكِ الَّذِي رَأَيْتِ. Il lui a dit, ô Fatima, n'es-tu pas satisfaite, n'es-tu pas contente d'être l'élite, la chef des femmes parmi les croyants ou des femmes de cette communauté? Et là, elle a dit, j'ai rigolé le rire que tu m'as vu faire. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم شارحا قول النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ الإمام النووي رحمه الله dit dans son commentaire de Sahih Muslim, lorsqu'il explique ce hadith du prophète عليه الصلاة والسلام, فإنه نعم السلف أنا لك, et quel bon prédécesseur suis-je pour toi. قال السلف المتقدم. السلف, c'est celui qui a précédé, celui qui t'a devancé. ومعناه, et son sens, أنا متقدم قدامك فتريدين علي. Je te devance et je passe devant toi et toi tu vas me suivre et tu seras amené à me suivre. هذا هو المعنى اللغوي. Voilà le sens littéral, linguistique du mot. Jamais le mot salaf n'a fait fuir. Il n'y a que les ennemis qui cherchent par tout moyen de s'attaquer à la vérité et de s'en prendre un terme qui est connu pour être un bon terme à la base. Un nuqtatu thaniya, le deuxième point, menhum as-salafu istilahan. Qui sont as-salaf? Et ici il est voulu le sens technique. Hein, le sens technique, istilah, technique. Mada ma'ana anna as-salaf fi al-lugha man taqaddamaka wa sabaqaka fi as-sinn wa al-fadl. Nous avons vu précédemment que le sens de as-salaf dans la langue, c'est celui qui t'a précédé, qui t'a devancé dans l'âge et le mérite. Wa huna nu'arriju ala tahdid hadhihi al-lafza min haythu al-istilah. Maintenant, on va se concentrer sur le sens technique de ce mot. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبة, سورة le repentir, la sourate numéro 9, le verset numéro 100. Et les premiers, les prédécesseurs parmi les muhajirin, les premiers musulmans, les Mekkois, ceux qui ont accompli l'émigration, c'est leur titre qu'on leur donne On les appelle Al-Muhajiroun. C'est leur titre qu'on leur donne. Al-Muhajiroun. C'est les seuls qu'on leur donne ce titre-là. Al-Muhajiroun. Ils l'ont gardé. C'est ceux qui ont fait cette émigration avec le prophète. C'est une émigration qui est spécifique, qui est spéciale, qui a son mérite spécial. Ça concerne les premiers musulmans qui ont quitté la Mecque pour Médine avec le prophète alayhi salatu wassalam. Après, la hijra, elle existe. Et elle persiste jusqu'à la fin des temps. De quitter les terres de mécréance pour les terres d'islam. Les mauvaises terres pour les bonnes terres. Ça, ça reste. Ça reste jusqu'à la fin des temps, la hijra. Mais celui qui l'a accompli, il ne l'est qu'au moment où il l'accomplit. Une fois qu'il l'a accompli, c'est fini. Il habite dans tel endroit et ça y est, c'est fini. C'est pas toute sa vie, on va l'appeler le muhajir. Vous comprenez? Voilà. Le terme muhajir, ceux qui, qui le gardent avec eux, ce sont ceux-là. Ah, mais les autres, non. Il est muhajir au moment où il l'a fait. Voilà. Ou alors qu'on va raconter son récit. Il a fait la hijra de tel endroit à tel endroit, à telle époque, en telle année, ainsi de suite. Mais sinon, c'est fini. Taïm. Donc, ce sont les musulmans de la Mecque qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont émigré à Médine. Wal Ansar, qu'on traduit par les auxiliaires, c'est les aides, ceux qui viennent secourir. Nasara, Yansoro, aider, secourir. D'accord ? Al-Ansar, c'est ceux qui ont donné secours, aide, refuge au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux émigrés de la Mecque. Et Al-Nasara, les chrétiens, on les appelle Al-Nasara. Pourquoi ? Parce qu'ils ont secouru, aidé Isa alayhi salam. C'est la même racine. Nasara. Nasara, secourir, aider. Ce sont ceux qui ont donné refuge et aide au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons, radiallahu anhum ajma'in. Donc, eux, ils sont cités dans le Coran, Al-Muhajirin et Al-Ansar. Puis, pour tous les musulmans qui viendraient après, pour qu'ils entrent dans ce verset, il faut qu'ils viennent avec des caractéristiques bien précises. Et ceux qui les ont suivis, qui ont suivi qui ? Ce qu'on a cité auparavant, Al-Muhajirin ou Al-Ansar. Ceux qui ont suivi Al-Muhajirin ou Al-Ansar. Donc, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, comme il convient. Ceux-là, Muhajirin, Al-Ansar, et ceux qui les ont suivis de la bonne manière, convenablement, Allah les agrée et eux l'agréent. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y séjourneront, resteront éternellement. Et voilà le grand gain. Donc, dans ce verset coranique, il est bien explicite que celui qui cherche la félicité, celui qui cherche la guider, celui qui cherche la véritable victoire, il ne peut l'avoir qu'en suivant Al-Muhajirin ou Al-Ansar. D'être derrière Al-Muhajirin ou Al-Ansar, qui l'ont précédé dans tous les mérites. Alors tous ceux qui quittent le Muhajirin ou Al-Ansar, ils n'entrent pas dans ce verset. Et ceux qui entrent dans le verset, Allah les agrée et eux l'agréent. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y seront éternellement. Wa fi sahihayn an ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans les deux authentiques de Bukhari et de Muslim, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, annahu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, khayrun nasi qarni thumma alladhina lunahum thumma alladhina lunahum ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته واللفظ للبخاري. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs des gens, c'est ma génération. Al-Qarn, il est voulu par ce mot-là, le siècle. Qarn, c'est un siècle, 100 ans. Et il est voulu aussi par ce mot-là, la génération.
Ici, c'est, ce sont les générations. Les meilleurs des gens sont ma génération, c'est-à-dire la génération des Sahaba, radiallahu anhu, qui étaient avec lui. Puis, ceux qui viennent après eux, c'est la génération des Tabi'in, ceux qui ont connu les compagnons. Puis, la génération qui vient après celle-ci, les Atba' al-Tabi'in, ceux qui ont connu les Tabi'in. Puis viendront après des gens dont le témoignage précédera leur jurement, leur jurement précédera leur témoignage. Et la variante, la version de ce hadith, c'est celle de Al-Bukhari. C'est-à-dire que Al-Bukhari Muslim l'aura mené pratiquement dans le même sens, avec quelques différences. Et ce récit-là, exactement, c'est celui qu'on retrouve dans le Bukhari. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث. Et dans le صحيح de مسلم d'après عائشة رضي الله عنها qu'un homme questionna le prophète صلى الله عليه وسلم: quelles sont les meilleures personnes, les meilleurs gens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est la génération dont je fais partie. Puis la deuxième, puis la troisième. Wa fil bab ahadith idda. Et dans ce domaine, ce chapitre, il y a plusieurs hadiths. Fal aya allati madat min surati at-tawbah wa ma jaa min al-ahadith تدل على خيرية الصحابة رضي الله عنهم. Et le verset de la sourate At-Tawbah, le repentir précédent, et les hadiths dans ce chapitre prouvent un argument qui nous montre le mérite et les bienfaits des compagnons qu'Allah les agrée tous. وأنهم خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et qu'ils sont les meilleurs de la communauté après le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Shia, vous comprenez, on étudie ça, vous comprenez leur éloignement total de la religion puisqu'ils ne veulent pas des compagnons. Al-Khawarij, vous comprenez leur égarement et leur éloignement. Ils ne veulent pas des compagnons. Ils ne veulent pas de la compréhension des compagnons. Ils l'ont dit dès le premier jour. Ils ont dit aux compagnons, vous avez quitté l'islam. Car c'est eux qui considèrent qu'ils ont compris le Coran, que les compagnons ne l'ont pas compris. Et Ibn Abbas, radiallahu anhuma, lorsqu'il va les confronter, il va leur faire cette remarque. Ne voyez-vous pas que vous êtes dans l'égarement, dans la déviance? Il n'y a pas un seul compagnon avec vous. Le fait qu'il n'y a pas un seul compagnon dans vos rangs, c'est une preuve que vous êtes dans l'égarement. Subhanallah. Et combien chez les frères musulmans qui vous nous embêtent avec l'akhlaq, le comportement. Quel comportement que vous cherchez? Quelqu'un qui ne sait pas se comporter avec Allah, avec son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons, radiallahu anhum ajma'in. Il vient nous parler du comportement? Quel comportement? Les mises en scène de nous faire croire. Mais là, ils croient que les tablirs, ils sont gentils. Ouais, ils sont gentils. Ils sont gentils que quand tu baisses ta tête et tu dis amin à tout ce qu'ils disent. Hein? Mais contrôle-les, dis-leur qu'ils sont dans l'innovation et dans l'égarement. Tu vas voir qu'est-ce qu'ils vont faire de toi. La gentillesse, elle ne sera plus là, elle n'existera plus. Il n'y aura plus de cacahuètes et d'huile d'olive à te proposer. C'est fini ça. Ce sont des coups de bâton que tu vas te ramasser. Subhanallah, a'udhu billah. Un monde de gourous. Déjà, ça n'existe pas, ça, dans la sunna. Hein? Il y a une autorité. C'est elle, l'exécutif. Les ulama, ils sont là pour montrer le chemin aux gens. Ils sont là pour enseigner. Un alim de la sunna, jamais il donne des ordres à des gens. Va faire ça ou va pas faire ça. Va taper un tel, va pas taper un tel. Ce sont des gourous. Mais il y a des gens, ils aiment bien être dominé par un gourou. C'est comme ça, c'est leur tempérament. Ils aiment bien.
Ils aiment bien être avec des gens et recevoir des ordres et exécuter. Faire le soldat. Voilà. C'est pour ça que même dans l'adoration, tu lui dis il faut faire 33 fois, subhanallah, alhamdulillah, il faut dire 100 fois le matin, tel zikr, tel dua. Il a du mal. Mais tu lui dis, viens, on va tous faire ça ensemble, l'assistana. Il y en a, ils aiment bien l'assistana dans la dunya, et il y en a même dans la religion, ils aiment bien l'assistana. Hein, vous voyez, souvent, quand les anciens, des fois, ils sont invités, ils mangent. Et ils disent à l'imam qui est là, ils lui disent, dua. Dua, ça veut dire, vas-y, pour qu'on puisse partir. Ça veut dire ça, en vérité. Ça veut dire, fais la dua pour qu'on puisse partir. On est bloqué à cause de toi. Fais les dua pour qu'on puisse partir. Ça n'existe pas. Ça, c'est que des bidas, des innovations. Chacun, lorsqu'il part, il fait la doua enseignée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non, ils veulent que quelqu'un, c'est lui qui fait les doua pour tout le monde. Non, nous, on ne peut pas faire doua. Allahu al-musta'an. Ce n'est pas l'enseignement prophétique. Allahu al-musta'an. Les rois, non, mais les compagnons, c'est des hommes et nous, on est des hommes. Les extrêmes, c'est dangereux. On n'a pas le droit de vénérer, d'adorer des gens, de leur donner un statut qui n'est pas le leur. Soit. Mais on n'a pas le droit de dénigrer des gens de valeur. Clair que les sahaba, on ne les adore pas en dehors d'Allah. Avant eux, le prophète, on ne l'adore pas en dehors d'Allah. C'est interdit. On ne peut pas adorer autre que Allah, Azza wa Jal. C'est un droit propre à Allah, Azza wa Jal. Mais les sahaba sont les meilleurs des hommes après les prophètes. On ne peut comprendre l'islam sans les compagnons, radiallahu anhum, car ils sont l'exemple même du bon musulman. Et eux, ils viennent te voir et te dire quoi ? Ce sont des hommes et on est des hommes. Oui, ce sont des humains. Et nous, on est des humains, mais la distance qui nous sépare, c'est la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. Mais ça, ils ne le comprennent pas. Mais pour vénérer leur chef de secte et leur donner une place au-delà, Allahumma musta'an. Et puis, ils viennent parler d'éducation. Quelle éducation ? Bien sûr que la bonne éducation, elle est demandée en islam, mais pas ce genre d'éducation qui sont de l'égarement et de l'éloignement de la droiture. Pour ça qu'ils n'ont pas de mal à parler en mal de certains compagnons. Ils en touchent un, après ils en touchent un autre, et ainsi de suite. Ce sont des portes, ils ouvrent. Et les premiers qui se sont attaqués à cela, ils voulaient détruire l'islam. Mais ils cherchent des moyens. Des moyens. S'ils s'attaquent au prophète indirectement, ils savent qu'ils n'auront pas beaucoup de suiveurs. Donc, ils vont fouiner et toucher à un tel ou tel ou tel sahabi. Et ainsi de suite. Un sahabi le touche, ils ont touché à tous les autres sahabas. Radiallahu anhum, jami'an. Donc, il faut faire attention. Oui, mais on nous cache des vérités. Quelle vérité ? Quelle vérité ? T'as appris quoi ? T'as appris qu'il y a eu une bataille un jour entre des hommes ? Ce sont des hommes. Ils ont leur part d'erreur. C'est Allah qui a décrété qu'il doit y avoir tel conflit ou tel conflit. Ils ont fait leur effort de réflexion. Celui qui a eu la bonne réponse, il a deux récompenses. Celui qui a eu la mauvaise réponse, il a une récompense. Ça s'arrête là. De quoi je me mêle ? Subhanallah. Tu étais présent, tu sais ce qui se passe. Aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a, techniques, technologiques, et ainsi de suite, eh ben, on ne sait même pas qui dit vrai de qui dit faux. C'est vrai ou pas ? Subhanallah. Et imaginez-vous, à l'époque, et des gens viennent te raconter en détail, les chiites, ils se font passer pour les spécialistes. Ah, et les gens, ils disent, ah, t'as vu, ce qu'ils nous racontent, eux, personne ne nous le raconte. Et au final, il n'y a pas plus menteur que les chiites. Faut attention. Depuis quand l'enseignement de la religion, c'est de vous enseigner qu'il y a un conflit entre un tel et un tel. Allah, il a préservé vos mains de participer à quelque chose. Préservez vos langues. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, nous a dit, voilà comment on se comporte avec ceux qui nous ont précédés dans la foi. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ. Et ceux qui viennent, après eux, après qui ? Les compagnons, radiyallahu anhum. يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ. Oh Allah, pardonne-nous. Et à ceux qui nous ont précédés dans la foi. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Et ne met aucune haine, rancœur dans nos cœurs envers ceux qui ont cru en notre Seigneur. رَبَّنَا إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Oh notre Seigneur, car tu es le pardonneur et le miséricordieux. Voilà comment on se comporte. Comme a dit Aïcha, أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. Il leur a été ordonné aux gens de prier Allah, de leur faire clémence, et ils les ont insultés. Ils font le contraire de ce qu'Allah a demandé. Subhanahu wa ta'ala. Alors ceux qui aussi, ils montrent une animosité envers les shi'a, al-rawafad. Les shi'a d'aujourd'hui en général, c'est les rawafad. Parce que bien qu'il y ait une différence plus ou moins grande entre les deux termes, mais ceux qu'on appelle shi'a aujourd'hui, ce sont pratiquement tous des rawafad. Ils viennent montrer soi-disant une haine envers al-rawafad et au même moment un amour pour Sayyid Qutb. Pourquoi Sayyid Qutb il a le droit de faire ce que al-rawafad n'a pas le droit de faire? Subhanallah. Sayyid Qutb a fait la même chose que al-rawafad. Il a dénigré, insulté, manqué de respect à des compagnons. Après, n'allez-nous pas raconter que ce que vous reprochez au rawafad, c'est d'avoir touché aux compagnons. Sayyid Qutb, il l'a fait. Subhanallah. Allahul Musta'an. Le sectarisme tue. C'est très mauvais. Et ne laisse pas la personne être objective. وفي الباب أحاديث عدة فالآية التي مضت من سورة التوبة وما جاء من الأحاديث تدل على خيرية الصحابة رضي الله عنهم وأنهم خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما لا شك فيه ولا ريب أنهم السلف المتقدم علينا في الفضل والعلم والإيمان رضي الله عنهم il ne fait aucun doute qu'ils sont les salafs, les compagnons, ceux qui nous ont précédés, devancés dans le mérite, dans la science et dans la foi, qu'Allah les agrée tous. لكن ها هنا سؤال مهم وهو. Mais là vient une question importante qui est هل التحديد الزمني الوارد في حديث ابن مسعود وعائشة وغيرهما من الأحاديث كاف في تحديد معنى السلف اصطلاحا. Est-ce que le temps, le moment voulu par le terme salaf qu'on retrouve dans les hadiths d'Ibn Mas'ud et de Aïcha qu'on a cité tout à l'heure et d'autres parmi les hadiths suffisent à eux seuls pour nous décrire la signification technique du mot as-salaf? Dans le prochain cours, inshallah, on répondra à cette question. Wa subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.